Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, étonnons-nous des soirs, mais vivons le matin. Notre invité ce soir, fou de littérature, aime citer Apollinaire. Quelques mots qui lui ont même inspiré le titre de son dernier livre, Réinventer les aurores, publié chez Pluriel. Il abhorre l'indifférence autant qu'il adore la fraternité et qu'il aime la République, des valeurs qu'il porte en étendard. Il croit en Dieu, bien sûr, mais il croit aussi en l'homme, à l'aise dans une époque qu'il n'a pas complètement renoncé à changer, à rendre plus généreuse, Haïm Korsia, le grand rabbin de France, est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Shalom, c'est le bonjour tout à fait particulier que la communauté juive de Reims adressait hier, 1er janvier, à son nouveau rabbin. Il a pris ses fonctions officiellement. C'est aussi le plus jeune de France. Il a 24 ans et il est passionné de communication.
Il avait et il a toujours, et je suis très reconnaissant pour ça, un vrai discours républicain, juif républicain.
Le nouveau grand rabbin de la communauté juive de France s'appelle Haïm Korsia. Il est âgé de 51 ans. Il était jusqu'à présent aumônier israélite des armées. Il est élu pour 7 ans.
Qu'est-ce que tu lis, maître ?
Le Talmud.
Et c'est intéressant.
Ça explique comment être un bon juif. Par exemple, on y dit que mentir, c'est très mal.
Depuis une heure maintenant, les forces de police sont mobilisées sur un nouveau théâtre d'opération. Ça se passe du côté de la porte de Vincennes, à l'est de Paris. Aux alentours de 13h, une épicerie cachère a été la cible d'une attaque.
Il est 17h15, les policiers d'élite s'apprêtent à intervenir sur la prise d'otage à Vincennes tout de suite. Les premiers coups de feu.
Pour lui, les attentats de janvier ont déclenché une prise de conscience de l'urgence de la situation. L'urgence de réinvestir le champ de la fraternité.
Dire le nom de quelqu'un, juste prononcer son nom, c'est le rendre encore présent à nous. Alors je voudrais dire le nom de Yoav Attab, François-Michel Saada, Johan Cohen, Philippe Braham, et aussi le nom de Clarissa Jean-Philippe, de Boisseau, Renaud, Ourad, Franck, Brissolaro, Tignous, Wolinski, Bernard, Honoré, Ahmed Merabé, Kayat, Cabu et Charme.
Soit juif, Éric Zemmour.
Antisémite, certainement, raciste, évidemment.
Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh !
Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin ? Mais il n'est pas juif ?
Ah si !
Mais toi, t'as d'autres familles ?
Si.
Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
La religion juive était écologique parce que quand il y a eu la COP21, il y a eu des combats terribles, idéologiques, pour savoir comment faire une journée sans voiture. Une journée sans voiture par an. Mais il se trouve que nous, dans le judaïsme, on a une journée sans voiture par semaine. Avec le Shabbat, ce qui fait 52 journées par an, plus les jours de fête, on a 60 jours sans voiture.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter. éviter le purgatoire.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Hors-Piste, Haïm Korsia.
Bonjour.
La musique, ça vous parle ça, hein? Les chansons françaises.
Toutes les chansons, la musique dit des choses plus simples à dire que les mots, parce qu'il y a toujours de la poésie dedans.
Il y a une question que je me pose, je me suis toujours posé, pour un curé, pour un imam, pour un rabbin, comment on devient rabbin dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'un jour dans votre vie, vous vous êtes dit, Haïm, tu vas devenir rabbin?
En général, c'est en suivant un modèle. On rencontre quelqu'un, on se dit, je veux faire ce qu'il fait ou je veux faire ce qu'elle fait. Donc, pour moi, c'est le cas. C'était un homme formidable qui s'appelait le grand Machouchna, et sauf qu'il était directeur de l'école rabbinique. Donc, pour rentrer sous son aile protectrice, d'une certaine manière, je suis rentré à l'école rabbinique. J'ai hésité, j'aurais pu faire d'autres choses. J'ai fait d'autres choses, d'ailleurs. Mais je suis revenu à ce qui était une façon de s'engager et d'accompagner la vie des gens. Finalement, c'est une façon extraordinaire, chaque fois, de se mettre en retrait. Les gens qui vivent leur vie, et nous on l'accompagne, mais il faut juste se mettre en retrait. C'est compliqué d'être présent et en même temps en retrait.
Vous êtes à la fois le chef d'une communauté, et vous dites, on se met en retrait, c'est ça qui est bien.
Écoutez, je vais pas vous dire que je fais comme Dieu. Mais la Kabbale explique que Dieu se contracte pour laisser le libre arbitre à l'homme.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez pas faire les choses pour les autres. Vous pouvez accompagner ce que d'autres font. Et c'est, je crois, le génie de l'interaction entre les personnes.
Ça ressemble à quoi le quotidien d'un grand rabbin de France? Une journée type, c'est quoi?
Vous voyez, là, dans la présentation que vous avez faite, qui était bouleversante pour moi, parce que je repensais à cette journée du 9 janvier 2015, où je pars visiter une communauté, c'était Bordeaux en l'occurrence, et je suis dans le train, je sors du train de Bordeaux, où je dois participer à une marche commune à partir de la mosquée pour aller devant le temple, puis devant la cathédrale, puis devant la synagogue, en hommage aux assassinés de Charlie.
Ouais.
On est 3 jours après Charlie.
Exactement.
Charlie, c'est mercredi, on est vendredi. Et puis je descends du train et j'apprends qu'elle a pris otage à l'Hyper Cacher. Donc je suis ça tout l'après-midi, c'est très violent. Je suis à Bordeaux, je rentre à Bordeaux, de Bordeaux samedi soir, alors que je devais aller à Libourne. Donc le quotidien, on peut le préparer, mais la réalité c'est que l'actualité décide pour beaucoup de choses. Et moi j'ai toujours mis l'importance de ma mission dans le contact avec toutes les communautés partout en France. Les grandes, les petites, les moyennes, avec ces hommes et ces femmes qui font des efforts pour faire vivre un judaïsme du bonheur, du partage, dans un écosystème qui est parfois compliqué mais qui est essentiel. Dans le dialogue interreligieux, par exemple, j'étais à Bayonne pour partager une conférence avec le président de la conférence d'évêques de France, le président du conseil français du culte musulman, un prêtre, pour essayer de voir partout en France à quel point cette fraternité nous est nécessaire. On dit pas la même chose, mais on le dit ensemble. Et donc, moi, je pense que c'est ça, mon quotidien, c'est tisser du lien, et dans le livre dont vous parliez tout à l'heure, qui est en fait la réédition en poche de Réinventer les aurores. Le nom de code dans mon ordinateur de ce livre, c'était Livre de couture. Parce que je pense que c'est tisser du lien. Comment on tisse du lien? Et on raccommode en fait ces grandes déchirures de nos sociétés où d'aucuns s'amusent à faire des murs, à segmenter les uns les autres, à déchirer, à couper. Et puisque vous parlez des chansons, c'est Jean-Louis Aubert dans Voilà, c'est fini, qui dit il vaut mieux couper que déchirer. Et c'est vrai, parce que quand on coupe, on peut raccommoder ensuite. Quand on déchire, c'est difficile.
Quand on déchire, c'est plus compliqué. Est-ce que quand on est rabbin, et à plus forte raison grand rabbin de France, on se doit d'être irréprochable? Est-ce qu'on a presque une obligation contractuelle d'être, je mets plein de guillemets, évidemment, parfait?
Personne n'est irréprochable. Je crois qu'on est tous... qu'on le veuille ou non, des pécheurs, au sens que personne peut tout le temps faire le bien, n'avoir fait que le bien, personne.
Mais ça vous met une pression, en quelque sorte?
Non, parce que la seule solution, c'est d'être soi-même. Oui. Parce que si vous construisez un personnage, vous ne pouvez pas le tenir en permanence. Donc, en tout cas, on ne peut pas me reprocher de jouer un rôle.
Vous êtes vous-même, mais ceux qui vous connaissent disent que vous êtes beaucoup plus déconneur hors micro que face à un micro ou face à une caméra. C'est la fonction qui oblige?
Oui, parce que je n'ai pas vocation à choquer. Maintenant, avec mes proches, dans des situations plus simples, il peut m'arriver de raconter une blague, mais enfin, ça arrive à tout le monde, j'espère.
Quelles sont les penseurs qui vous inspirent?
Il y en a beaucoup. Dans le passé, on a des chances d'avoir des personnes qui ont interprété les textes et qui leur ont donné une modernité incroyable. Puis des penseurs plus contemporains. Je pense à quelqu'un comme Emmerich Deutsch, qui était le président de la Sofres et qui a beaucoup étudié le Talmud, commenté le Talmud. Le grand Machouchna, dont j'ai parlé, le grand Citruc, qui était grand rabbin de France, sont des gens qui ont toujours considéré que la Bible ne racontait pas une histoire du passé, mais bien une histoire contemporaine. Le Talmud, les commentaires. Mmh. Et puis, il y a tous les grands penseurs, les grands écrivains. Je pense qu'il y a beaucoup de philosophie chez Victor Hugo, par exemple. Vraiment. Peggy. Peggy dit des choses intemporelles. Je trouve qu'il y a de la sagesse partout, y compris dans beaucoup dans des poètes, mais y compris dans des chansons.
La littérature, ça compte beaucoup pour vous?
Je crois que c'est ce qui fait un référentiel commun avec tous nos concitoyens.
Ouais.
Je suis français parce que on vibre aux mêmes histoires, à la même littérature, et la littérature française a ceci de génial, d'inclure aussi des livres écrits par des étrangers et traduits en français, c'est-à-dire d'être au carrefour de l'échange intellectuel. Donc oui, je crois que la littérature est une trame dans laquelle on peut s'insérer et être dans des positions différentes, mais tous ensemble.
C'est quoi un bon livre pour vous?
Un livre que vous dévorez.
Ouais. Celui qui vous scotche.
Ouais.
Ouais.
Il y en a qui sont bons et qui nous font souffrir. Là, je suis en train de lire le livre Les Fossoyeurs.
Ouais.
Sur
les maisons de retraite.
Ouais. Bah, c'est terrible. Je vais aller au bout, mais je souffre parce que c'est un livre qui raconte la façon uniquement comptable de voir le monde, d'instrumentaliser les choses. Et c'est très violent parce que on se dit que, vous voyez, je parlais de Bible. On se dit que quand dans la Bible, Moïse et Pharaon négocient pour laisser sortir le peuple juif d'Égypte, Moïse répond à Pharaon qui lui dit « Mais allez les adultes, vous n'avez pas besoin des vieux, vous n'avez pas besoin des jeunes, c'est encombrant dans le désert, laissez-les-moi. » Et Moïse répond « Non, non, avec nos jeunes et nos anciens, nous partirons. » Une façon de dire, une société qui ne s'occupe pas bien des enfants, qui ne met pas les moyens qu'il faut dans l'éducation, et une société qui ne s'occupe pas bien des anciens, elle a un problème. Et donc moi je veux partir avec ces deux pôles d'une société. Et donc, je ne réduis pas la société aux seuls actifs, aux seuls productifs de la société. Je trouve que c'est une grande réflexion. Donc, vous voyez, voilà.
Vous devez être malheureux aujourd'hui, alors, hein, parce que la société, elle laisse.
Oui.
Ceux qui avancent peuvent avancer bien, mais tous ceux qui sont sur le carreau, ouais. Ils ne voient plus, les invisibles.
Oui. Je pense qu'il y a une nécessité de revoir cette notion d'intérêt pour les autres. Il y a des gens qui ne sont pas productifs immédiatement, mais qui apportent beaucoup à la société. Ces personnes qui font du lien. Dans le milieu associatif, on a des gens où on n'est pas capable de déterminer leur... Et d'ailleurs, c'est un mécanisme qui va plus loin dans les sociétés. Quand on fait des charrettes pour dégraisser, le mot est horrible, le personnel, on prend les gens les moins productifs. Mais ce sont souvent ceux qui sont des liens entre les personnes. Donc, on ne se rend pas compte qu'on est en train de déstabiliser tout le tissu social de ces sociétés. De manière plus large, c'est exactement la même chose. Et je pense que la pratique du Shabbat, l'interdiction de travailler le septième jour, pour moi, dans le judaïsme, me réapprend semaine après semaine que les gens ne sont pas importants qu'en fonction de ce qu'ils produisent. Parce que le Shabbat, on ne produit rien. Et pourtant, on est toujours le même.
Mmh.
Donc, se rappeler de cela, ça veut dire qu'on a besoin de se le rappeler.
Continuons à parler un peu littérature. Qu'est-ce qui vous amène à un livre? Comment vous les choisissez, vos livres?
D'abord, je lis tout ce qui peut m'intéresser. Beaucoup de bandes dessinées, je vois votre studio.
Oui.
Ouais.
Il y a des dessins là, qui sont...
Oui, j'ai vu là. Il y a des dessinateurs qui sont amusés sur...
Écrit sur la table ici, à France Inter.
Oui, c'est bien.
Et beaucoup de biographies, paraît.
Oui.
Pourquoi?
Parce que... Alors d'abord, beaucoup de biographies, parce que je trouve que les biographies sont un genre un peu méprisé, alors qu'on découvre la vie de quelqu'un, mais vraiment en profondeur. J'ai d'ailleurs écrit la biographie du grand Macaplan, qui est un homme formidable. J'ai vu à quel point... Chaque élément de la vie, en fait, produit une cohérence chez quelqu'un. Et puis, c'est une façon de les connaître. Et je vais vous dire, j'ai lu beaucoup de biographies de rescapés de la Shoah qui ont écrit leur mémoire. Chaque histoire est unique, complètement différente. Et elle est nécessaire. Des rencontres, des hasards, des personnes qui, à un moment, vous tendent la main. Alors que, voilà, elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en façon.
Brassens.
Oui, c'est cette façon... que ces personnes ont de raconter leur vie dans une trame qui, rétroactivement, illustre, oui, ce qu'eux peuvent appeler de la chance d'avoir survécu, parce que la vraie question qui se pose, c'est pourquoi moi ? Et ils ont quasiment tous répondu, pourquoi moi ? Pour pouvoir témoigner. Mmh. Donc je trouve que lire leur témoignage, c'est aussi leur rendre raison d'avoir survécu.
Prendre le bâton du relais un peu, ouais. Et le transmettre.
Oui, ce que j'essaie de faire avec les voyages que j'organise à Auschwitz, pour que les jeunes soient les témoins des témoins, les derniers témoins. Et c'est quelque chose de vraiment très impressionnant.
Vous y étiez encore il y a une quinzaine de jours à Auschwitz.
Oui.
Qu'est-ce que vous ramenez de là-bas, entre guillemets, évidemment ?
D'avoir beaucoup de souffrance.
Oui.
Vraiment, c'est à chaque fois difficile. Je sais pas pourquoi je tousse systématiquement un mois après. Et je pars le matin, j'ai rien. Je reviens le soir, il me faut des pastilles contre la toux. C'est vital. C'est étrange, mais c'est comme ça, une sorte de incapacité à trouver une respiration normale. C'est vraiment chaque fois un voyage lourd. Là, j'y étais dans des conditions un peu différentes parce que j'ai fait mon voyage traditionnel en décembre et là, j'y suis allé avec le Premier ministre pour le 27 janvier, l'anniversaire de la libération d'Auschwitz. Donc, je n'avais pas les charges d'organisation. Mais vous avez toujours une porte que vous ouvrez alors que vous ne l'avez pas ouverte d'habitude. Vous rentrez dans un bâtiment, un pavillon que vous n'avez pas l'habitude de voir et vous découvrez quelque chose d'autre. Donc, je trouve qu'il y a... dans cette capacité, et il y avait des jeunes, cette capacité à voir les jeunes s'approprier cette histoire et faire de cette histoire leur histoire.
C'est comme ça qu'on peut lutter contre l'oubli, Haïm Korsia ?
Oui, bien sûr. Vraiment.
Parce qu'entre l'époque où vous étiez gamin et aujourd'hui, on a l'impression qu'on regarde pas ces événements du même œil, que ça devient, entre guillemets, un peu froid, ça devient des pages dans un livre d'histoire. Ça s'éloigne.
Pardon, mais je vous dirais l'inverse. C'est étrange que vous voyez ça comme ça.
Ouais.
Que je vous dis l'inverse. Quand moi j'étais jeune, 16 ans, on en parlait peu. L'acmé de la souffrance, c'était la case de l'oncle Tom. Dans ma famille, ma tante, par exemple, toute sa famille a disparu, elle n'en parlait pas.
Ouais.
C'était pas une époque où on parlait de ça. C'est après que c'est venu, et je crois qu'il faut expliquer, il faut montrer, parce que vous voyez, toute notre société qui produit du doute sur tout, sans parler du négationnisme assumé de certains, la réponse la plus claire, c'est ça, c'est venez voir. Et en décembre, j'ai amené une classe, par exemple, de province, où il y a eu un jeune qui a eu une réaction antisémite envers une camarade. Et plutôt que de le sanctionner, j'ai dit, je prends la classe avec moi. Et on a amené la classe à Auschwitz. Vous savez, ce travail, en plus, ils ont eu après à raconter, à expliquer. Mais je trouve que ça, il y a un vrai travail de... on appelle en hébreu tikkun olam, de réparation du monde. Et on peut pas laisser le monde s'effilocher en permanence. Il faut raccommoder le monde. Raccommoder le monde, c'est...
On en revient à couper, non pas déchirer, pour pouvoir réparer derrière. Je me fais un pieux devoir de n'avoir jamais lu Céline, auteur antisémite.
Oui, ce jour-là, je vais rajouter Proust non plus, parce que c'est dur.
Proust, parce que vous le trouviez ennuyeux, donc c'est pas parce que vous trouviez les phrases trop longues.
Mais c'était avant que je ne découvre une description de la mer de Proust, de la mer au sens de l'immensité de l'eau, et que je la trouve merveilleuse.
Oui, mais Céline...
Cette immensité fendue que par les pieds des enfants qui marchent sur la plage. Un truc merveilleux. J'ai dit, bon, ça, j'ai été peut-être un peu outrancier. Quant à Céline, écoutez, il y a tellement de choses à lire pour que j'aille juste lire des horreurs, alors paraît-il bien écrites, mais c'est une possibilité. Et quand j'ai dit ça, ce que j'assume, parce que c'est la réalité, je ne l'ai pas lu, je pourrais vous dire, j'ai lu tout Céline, je trouve que c'est ennuyeux, c'est pas beau, c'est pas bon. Non, parce que j'ai fait le choix de ne pas lire, et d'aucuns m'ont dit, mais quand vous disparaîtrez, le nom de Céline restera toujours pas le vôtre. Ok, mais j'aurais pas lu Céline.
Ouais.
Donc moi, ça me gêne pas.
Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, séparer l'œuvre de l'homme, comme on dit, ça c'est du pipeau, ça n'existe pas en fait?
Je n'ai pas lu non plus une rue à La Rochelle.
Ouais.
Brasillac non plus.
Et vous écoutez du Wagner?
Je vais pas le chercher, sauf quand il y a des hélicoptères qui volent. Parce que la musique va bien, et puis c'est une musique de film. Donc là, évidemment. Mais honnêtement, même pour les hélicoptères, je pense que Hans Zimmer serait bien meilleur. Zimmer, dans la musique de film, vous voyez, comme Pirates des Caraïbes ou Gladiator, là, il y aurait quelque chose peut-être même de plus fort que Wagner. Écoutez, je fais pas une segmentation de la musique comme ça, si Wagner j'écoute. Mais je pense qu'il y a tellement à lire, tellement à découvrir, que d'aller juste chercher quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, sème son venin dans les mots, je vois pas l'intérêt, si vous voulez. que certains le disent très bien, il y avait un réel intérêt à mettre Audrey de La Rochelle dans la collection de la Pléiade. C'est une question que je pose. Hein. Si on veut le mettre mes livres dans la Pléiade, j'en serais très fier. Mais est-ce qu'il y avait besoin de mettre Audrey de La Rochelle ? Donc vous voyez, des fois, on n'est pas cohérent. On se dit, oui, c'était horrible, Brasillach, enfin vraiment, faut penser à toutes ces œuvres qui ont servi finalement de marchepied à la haine, qui ont servi d'éléments de montée de l'enfermement qu'ont connu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a aucune raison de leur donner la moindre... J'avais quelqu'un... Vous me parlez des maîtres, voilà un maître que je trouve extraordinaire, c'est le rabbin Steinsaltz, qui est l'homme qui a traduit en hébreu, et on a pris une version française, tout le Talmud. Parce que le Talmud est écrit en araméen en grande partie. Il a dit une chose magnifique. Ce qui est écrit sur moi, je le lis jamais. Si c'est vrai, je le sais déjà. Et si c'est faux, j'ai pas le droit de colporter quelque chose qui est faux. Ça veut dire que, vous voyez, malgré nous, on porte et on colporte les idées qu'on lit.
Une autre phrase que vous aimez beaucoup, je crois. Il faut souvent, pour devenir heureux, qu'il en coûte un peu d'innocence.
Parce que j'ai eu l'honneur d'accompagner les militaires français.
Mm-hmm. Vous étiez aumônier de l'armée. Hein,
j'étais aumônier des armées. Donc j'accompagne les militaires qui, eux, vont se confronter à l'horreur du monde et donc perdre leur innocence, hein, complètement. Ceux qui ont dû gérer les charniers au Rwanda, ceux qui ont dû gérer des affrontements d'une violence incroyable en ex-Yougoslavie, ceux qui ont dû gérer les coupeurs de route en Côte d'Ivoire, j'étais avec eux. Et donc, eux, ils perdent leur innocence pour que nous, on puisse la conserver. Mais que nous, on conserve notre innocence, ça a un coût, leur perte d'innocence. Mmh. Donc on doit avoir un immense respect pour ces femmes et ces hommes qui vont nous défendre au bout du monde.
Mmh. Évidemment, leur sacrifice nous oblige. Mmh. Mais comment la religion et le bruit des bottes peuvent-elles s'entendre ? C'est pas le mariage des contraires ?
Non, pas du tout.
Non ?
D'abord, le bruit des bottes... Si ce sont des bottes qui viennent vous sauver, vous voulez ça. Vous les attendez, ces bruits de bottes. Deuxièmement, il se trouve que dans les synagogues, on récite la prière pour la République, tous les samedis. Et donc moi, j'ai rajouté un paragraphe sur les forces de l'ordre et les soldats. Éternel, accorde ta protection, ta bénédiction à nos forces de l'ordre, à nos soldats, qui en France et partout dans le monde défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Je crois qu'il y a quelque chose aussi d'inspirant pour tout associer, leur courage, leur force morale, c'est aussi pour nous. C'est leur ténacité. On peut pas abandonner dès que c'est un peu difficile. Donc on doit tirer une leçon du comportement des militaires pour l'ensemble de la société.
Je voudrais qu'on écoute ce que disait Jean-Louis Debré, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui était assis à cette même place la semaine dernière dans Hors Piste sur France Inter.
Vous savez, je suis meurtri chaque fois que je passe devant un lieu de culte, que ça soit une église, que ça soit un temple protestant, une synagogue, de les voir protégés.
Il y a un truc qui cloche là quand même. Les portes qui devraient être les plus ouvertes du monde sont finalement les plus protégées. La faute à qui ?
C'est très touchant ce que dit le ministre, parce qu'il était ministre de l'Intérieur, n'oublions pas. Et je vais vous dire, moi je partage cela, parce que on ne doit pas s'habituer, c'est Peggy qui disait ça, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes habituées. S'habituer à ce que des lieux de culte soient protégés, c'est ne jamais plus envisager qu'un jour on revienne à un état nominal qui veut qu'un lieu de culte n'ait pas besoin d'être protégé. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Il faut protéger les lieux de culte. Les lieux de culte catholiques sont protégés à Noël, pendant le Ramadan, à El Kébir pour les musulmans, nos synagogues pour les jours de fête, les jours de Kippour, Rosh Hashanah, les jours importants. C'est une concession à la violence de la société, mais elle ne doit pas nous faire oublier la norme. C'est-à-dire qu'un lieu de culte, effectivement, doit être ouvert. Il faut qu'on garde cette espérance comme un horizon à atteindre un jour, qu'on ne trouve pas normal que les choses évidentes, importantes, soient. Et je trouve qu'il a parfaitement raison. Mais pour l'instant, il n'y a pas de moyen de faire autrement.
Mmh. Est-ce que la religion peut rendre fou ? Est-ce que la religion radicalise ? Parce que finalement, ceux qui s'en prennent à des lieux de culte le font... À notre époque, en tout cas, souvent, quand on parle d'islamisme radical, au nom de leur religion.
Ils le font d'abord dans une compréhension complètement erronée de leur religion, et puis, honnêtement, ils sont souvent radicalisés sur Internet. Ça veut dire sans contact avec un maître, en fait, avec quelqu'un qui vous enseigne. Ou alors le maître est lui-même perverti par autre chose, par une vision politique. Mais les religions, écoutez, hier, dans le débat que nous avons vécu ensemble avec tous les représentants des cultes, c'était fraternel, c'était même fun, et c'est le cas tout le temps. Donc il y a là une hyper mauvaise compréhension de ce que la religion, qui vient de religuérer, le mot religuérer veut dire relier, encore une fois, rapiécer, relier les personnes entre elles, pas forcément relier les personnes à Dieu, parce que l'essentiel, c'est ça, l'essentiel, c'est le lien qu'on a avec les autres. Croyez-moi, le lien avec Dieu est secondaire.
Mais pourquoi alors y a-t-il des religieux, dans toutes les religions d'ailleurs, dans des proportions évidemment très différentes, des personnes qui tuent au nom de la religion, qui massacrent au nom de la religion, qui excluent au nom de la religion?
D'abord, on ne peut pas dire dans toutes les religions, parce que c'est pas...
Pas qui tue, mais qui exclut sans doute que oui.
Oui, mais c'est pas le même mouvement de tuer quelqu'un d'ôter la vie que de se sentir investi d'une vérité plus véritable que la vérité des autres. Moi, j'ai une vision, oui, écoutez, si je vous disais pas que le judaïsme porte sa vérité, je serais pas juif, j'aurais peut-être changé. Mais en même temps, j'accepte que les autres puissent croire ce qu'ils veulent, et mieux, je les défends, je les aide.
Vous pensez, comme dirait un enfant, hein, vraiment avec cet état d'esprit-là, que finalement, vous savez peut-être mieux que les autres?
Non.
Non.
Non. Et je vais vous dire pourquoi. Et là, je vous le dis de manière spirituelle et religieuse. Dans le judaïsme, l'un des textes les plus importants de la Bible, ce sont les 10 commandements. Chapitre 20 de l'Exode. Ce texte, vous imaginez les 10 commandements. Sur le mont Sinaï, prends ton bâton, vous voyez, Cécile B. DeMille, c'est ça.
Absolument.
Ce texte porte le nom de Yitro dans la Bible. Et Yitro, c'est un nom juif. C'est le beau-père de Moïse, il n'est pas juif. Et donc on a donné le nom d'un nom juif à ce passage, comme pour nous dire, tu sais, la vérité, elle vient de partout, de tout le monde. Chacun et chacune dans le monde est porteur d'une étincelle de vérité. Et rien ne dit que ta vérité soit supérieure à la sienne. Maintenant, notre foi nous engage à suivre les choses de telle ou telle façon, mais on a besoin aussi, dans l'équilibre du monde, que d'autres croyants servent Dieu d'une façon différente. Et quand on était ensemble, j'ai un copain protestant, le patron de la Fédération protestante de France, qui a une très belle image, il dit, c'est comme une pyramide. Les bases sont parfois éloignées, mais plus on s'élève, plus on devrait comprendre qu'on converge vers le même point. Je trouve que c'est joliment expliqué, c'est-à-dire que chacun et chacune est détenteur d'une étincelle de vérité, partout dans le monde.
Est-ce qu'il faut du courage aujourd'hui pour être un responsable religieux ?
En tout cas, il faut de l'engagement, mais dans chaque chose. Quand vous êtes journaliste, vous, il vous faut du courage pour dire des choses.
Moi, je ne vis pas sous protection. Aujourd'hui, quand on est un responsable religieux, donc un homme de paix en France, on est protégé. On est obligé de sortir protégé.
Oui, mais pardon, il y a des journalistes qui le sont. Oui. Les journalistes de Charlie le sont. Donc, en fait, dès que quelqu'un porte des convictions, il devient une menace pour ceux qui veulent abraser toute conviction. Et donc, oui, il y a une forme aussi de prix à payer, mais je crois important de poursuivre cette mission. Tout comme les journalistes dont je vous parle poursuivent cette mission, les journalistes. Mais l'avocat de Charlie l'est aussi. Je connais des gens. Vous vous rendez compte, votre consoeur qui a présenté une émission sur la 6 est protégé. C'est terrible de se dire qu'on peut même pas présenter un point de vue.
Mais on s'est pas un peu trop habitué à ça? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu maintenant et plus de s'indigner de ça?
Probablement. On a constaté qu'elle était protégée et on n'a rien fait de plus. Mais oui, vous avez probablement raison.
Est-ce que être grand rabbin de France, c'est aussi avoir une fonction politique aujourd'hui?
Toute fonction de parole.
Oui.
À quelque chose de collectif. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, et d'ailleurs c'est intéressant parce que quoi que je puisse dire, il y aura des gens qui trouveront que c'est bien, et d'autres qui trouveront que c'est pas bien. Et donc, c'est aussi une forme de risque à assumer. Parce que si vous ne dites rien, personne ne critique ce que vous dites. Certains critiquent le fait que vous taisiez, c'est vrai. Mais quand vous parlez, les mêmes d'ailleurs qui critiquaient le fait que vous taisiez, vous critiquent parce que vous parlez. Mais au fond, on doit dire quelque chose pour essayer de construire une pensée collective, une pensée commune. Non pas pour dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien, mais pour dire regardons comment on pense, le rapport à l'autre. Je vois par exemple un domaine où les religions ont un devoir d'intervention à mon sens.
Oui.
Tout ce qui peut être dit concernant les migrants, les étrangers. Je suis porteur d'un texte qui s'appelle la Bible. Il ne m'appartient pas. Il a existé avant moi, il existera après moi. Et dedans, il y a marqué « Tu aimeras l'étranger, car tu as été étranger en terre d'Égypte ». Soit je le comprends comme « Tu aimeras l'étranger », mais sauf cela, parce que cela, c'est comme vraiment des étrangers, et pas ceux de maintenant. Soit je comprends que ça me parle à moi, à vous, à toute la société. Et donc, il faut transcrire ces mots trimillénaires dans un langage actuel. Comment aimer l'étranger? Comment respecter l'étranger? Comment respecter l'étrange? Quel est le droit de l'étranger? Quel est le devoir de l'étranger dans une société? Une fois qu'on parle de tout ça, on parle donc de notre construction commune, avec ses limites, avec ses règles. Et s'il n'y a pas de règles, il n'y a plus de société. Donc il faut rappeler des règles. Mais il faut rappeler aussi des principes. Et on essaye, en tout cas, avec d'autres, hein, mais c'est pas, j'allais dire, j'ai pas parole d'évangile, sûrement non, mais avec d'autres, on essaye de trouver une façon d'élever les choses et de ne pas rester enfermé dans les données d'une question qui nous paraissent insolubles. Et d'aucuns se complaisent dans ce système où rien ne va, c'était mieux avant, c'est pas bien, on est malheureux, c'est la cata. Non, pas du tout, pas du tout. Dans le judaïsme, on voit toujours comment la situation peut s'améliorer. On voit au futur. On pense le monde au futur. Quand je dis faut aimer l'étranger, c'est simplement parce que je peux pas accepter que voilà, deux migrants rejetés en mer soient morts là en Grèce, parce que il y a quelque chose de violent dans le fait de dire celui-ci est mieux parce qu'il est proche de moi et celui-ci est moins bien parce qu'il est lointain. Alors que le prophète Isaïe a dit paix. Oui, paix, deux fois. Shalom, shalom, paix, paix. Pour le lointain et pour le proche. Lointain avant. Ça oblige.
Vous étiez très proche de Jacques Chirac. Il a même préfacé votre livre sur Kaplan. Vous avez côtoyé beaucoup de chefs d'État, de politiques, de présidents. Que vous ont appris ou transmis, si vous ont transmis quelque chose, les puissants de ce pays? Parce que vous, on voit bien la discussion que vous pouvez avoir avec eux en les amenant à se poser, à discuter, à prendre le temps, qui n'est pas le temps de l'instantanéité de la politique, mais eux, qu'est-ce qu'ils vous ont donné?
D'immenses démonstrations d'engagement. Les personnes que vous avez citées, et tous les responsables, hein, tous, à quelque niveau que ce soit, j'ai connu évidemment très bien les militaires auparavant, sont des gens qui s'engagent, qui engagent leur vie, souvent au détriment de leurs intérêts propres, pour défendre une idée de la société, une idée de la France. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration devant cette forme d'abnégation. Et puis, vous croyez que c'est facile de s'avancer et d'être sous les projecteurs en permanence, de plus avoir de vie privée, de vie intime, de plus avoir cette liberté qu'on a, finalement, à chacun et chacune à un niveau divers, d'être soi-même sereinement? Quand vous êtes en permanence scruté, photographié de loin, enfin bref, sous les projecteurs et sous les regards des autres, c'est quelque chose de très lourd. Moi, j'ai toujours été admiratif de cet engagement et de ces sacrifices. Mais j'ai autant d'admiration pour les responsables communautaires du comité juif partout en France, qui consacrent leur week-end, leur journée, leur soirée à faire vivre ces communautés, alors qu'ils pourraient s'occuper de leurs activités commerciales, de leurs patients, de leurs clients d'avocats, enfin, bref, leurs activités, ou simplement voir un film ou lire un livre tranquille, et ils viennent s'engager. Et je vous parle des miens, mais je pense au Secours catholique, les apprentis d'Auteuil, vous voyez, toutes ces personnes qui, à un moment, font un pas en avant et disent « me voici, je m'engage, je ne consomme pas la société, Je suis prêt à la produire. On doit avoir une forme de reconnaissance pour ces personnes.
Il y a quelque chose qui marque quand on vous voit, c'est que vous êtes un rabbin rosette. Vous êtes toujours la petite rosette de la Légion d'honneur.
République,
le revers de la veste. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes sur une jambe la religion et l'autre jambe la République chez vous.
Écoutez, presque... la République m'a honoré. J'en suis très fier, très touché. D'ailleurs, je ne sais pas comment expliquer cela autrement que par le fait que peut-être que je fais a une certaine importance pour l'ensemble de la société. Maintenant, ne pas la porter serait dire c'est pas important et ce serait presque méprisant.
Toujours moi, juif et républicain, disait Delphine Horviller hein, dans le portrait qu'on entendait au tout début de l'émission, parlant de vous.
Oui, j'ai toujours été sur cette ligne, qui est celle de Kaplan, qui est celle du consistoire. Moi, je suis le grand rabbin de France, mais parce que c'est les élus du consistoire qui m'élisent, justement. Et notre devise au consistoire, depuis Napoléon, c'est religion et patrie. Donc c'est très clair, c'est la religion pour construire la patrie.
On va écouter, Raïm Corsia, votre choix musical dans Hors Piste. Et vous avez choisi Leonard Cohen.
Oui, j'aurais pu choisir Renaud.
Oui.
14 avril 77, le retour de Gérard Lambert. Ou Gérard Lambert, mais on aurait pu choisir un Goldman, pas Laurent Romain, chanteur. On aurait pu choisir tout ce qui a fait ma jeunesse. France Gall, Résiste.
Prouve que tu existes.
Prouve que tu existes. On aurait pu faire Babacar, puisque j'ai parlé d'étrangers.
Où es-tu?
Voilà, on aurait pu choisir tant et tant. Et puis, j'ai pensé à Leonard Cohen. Je vais vous dire pourquoi, ça va vous étonner. J'ai un de mes amis qui m'a offert un livre de commentaires de la Bible du grand-père de Leonard Cohen. Son grand-père était un rabbin qui a écrit un commentaire bouleversant sur le Midrash, c'est-à-dire un commentaire allégorique de la Bible. Et chaque semaine, je le lis en fonction du texte qu'on a dans la Bible. Et je trouve des choses merveilleuses. Et bon, c'est à la fois ce rabbin et en même temps, c'est le grand-père de Leonard Cohen. Et dans son dernier album, parce qu'il a fait un autre album posthume, mais dans son dernier album de son vivant, il y a cette chanson qu'il chante, qu'il interprète avec le chœur de sa synagogue de Montréal. Et c'est incroyable parce que 3 mois avant de mourir, il dit « Ineni » en hébreu, « Me voici, I'm ready my Lord, je suis prêt mon Dieu ». Et je trouve qu'il faut une force incroyable pour dire un peu avant sa mort « Me voici mon Dieu ».
« If you want it darker », chanson de Leonard Cohen, c'est le choix d'Aïm Corsia dans Hors Piste.
Hey, 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 hey.
Thomas Soto. France Inter. Hors piste.
Haïm Korsia, le grand rabbin de France, est dans Orpi. C'est formidable parce qu'on entendait Léonard Cohen et pendant la chanson, vous faisiez l'exégèse du texte. Hein, et évidemment, on a entendu le inanime, voici tout ce que vous nous expliquez avant d'entendre ce titre. Bon, Léonard Cohen, c'est pas toujours l'optimisme forcené.
Je suis d'accord.
Hein, ben d'accord.
Même s'il a fait des chansons comme Alléluia, que tout le monde reprend et que Beck a repris, mais tout le monde oublie la version de Léonard Cohen, il a fait des chansons très connues. Le Partisan, alors évidemment... Les Allemands étaient venus. Enfin, tout ce qu'il a fait dans sa vie, Suzanne.
Ouais.
Il n'est pas été que dans.
C'est vrai.
Que dans le Prozac. Mais
là, il nous a plombé pour la fin de la journée, quand même.
Non, parce que c'est aussi une façon de considérer que même à la fin, le génie de quelqu'un s'exprime toujours.
Ouais.
C'est vraiment son dernier album. Et son génie, c'est une forme de profondeur et de vérité. Je trouve que c'est. Est-ce que c'est pas ce que vous proposez, vous, profondeur et vérité, parce que vous appelez votre émission hors piste. Moi, j'ai jamais fait d'hors piste. J'ai toujours été
dans les
au ski, par exemple. J'ai toujours été dans les pistes, dans les clous. Et au fond, vous avez raison. À un moment, il faut oser. Donc lui, il a osé à un moment retrouver toutes ses origines, réaffirmer son lien au judaïsme sur lequel il s'est jamais penché. Alors c'est vrai, quand vous appelez Léonard Cohen, c'est dur de dire que vous n'êtes pas juif. Mais en même temps, on peut l'imaginer. Chacun libre de sa religion, de ses inspirations. Mais je trouve que cette chanson, c'était une forme de retrouvaille de tout ce qui fait le Léonard Cohen. Et j'ai un petit regret, c'est que j'aurais tellement aimé que le prix Nobel de littérature, qui a été attribué à juste titre à Bob Dylan le soit conjointement aux deux. Ils ont quelque chose de ces poètes américains, de Bob Dylan avec Blowing in the Wind ou d'autres chansons. Moi, mon époque, c'est Isis avec Sarah, Hurricane, vous voyez tout ça. Mais Leonard Cohen a aussi quelque chose de cette poésie qui transcende et qui élève et qui a décrit parfaitement une époque, un temps. Il aurait pu avoir aussi le prix Nobel. Ça aurait été formidable.
C'est vrai. Écoutez ces quelques notes. Encore des notes, vous allez forcément les reconnaître.
La Moldao.
Pas du tout. L'hymne israélien.
C'est la Moldao. C'est l'hymne israélien, c'est la Tikva, mais ça vient de la Moldao. C'est ça vient de là.
Je savais pas.
Bah oui, Smetana s'appelle.
Qu'est-ce qu'il éveille en vous, cet hymne?
Ce qu'il dit, ça s'appelle la Tikva, c'est l'espérance. C'est un chant. Et je vais vous dire, ok, c'est l'hymne national israélien. On a tous un lien assez fort à Israël.
Accessoirement, il est magnifique.
Allez l'écouter à Auschwitz, dans le pavillon israélien. Où ils remettent, et c'est fort ce qu'il y a eu dans ce pavillon, ils remettent ce qu'il y avait avant. On sait qu'il y a eu la destruction de 6 millions de juifs, mais qu'est-ce que vivaient les communautés juives avant? Et dans les années 30, il y a des jeunes, donc on a les images, et les chants, on les entend chanter cet hymne, l'hymne d'un pays qui n'existait pas encore. Et donc c'est l'espérance. Et au fond, c'est une espérance universelle, celle d'être capable d'avoir un État dans lequel les juifs, qui le veulent, puissent vivre sereinement, en harmonie avec leurs voisins. Voilà, tout ce que dit cet hymne,
une
forme d'espérance partagée.
L'hymne d'un pays qui n'existait pas encore, écoutez celui-là aussi.
C'est la Palestine, ça?
Oui. Que dit l'homme de paix que vous êtes de cette situation?
Écoutez, ils sont depuis longtemps dans des discussions, des échanges, la construction du quotidien. Moi, je suis persuadé que la construction du quotidien fonctionne bien mieux que des grands accords internationaux qui ne seraient pas appliqués par la base. Et moi, quand m'est arrivé d'aller en Israël et d'aller passer des moments à Bethléem chez des amis palestiniens, et j'ai vu qu'au quotidien, ils vivent ensemble. C'est-à-dire que
ils veulent un État aussi, eux.
Mais il y a déjà quelque chose qui ressemble à un État. Dans les faits, d'aucuns se sont dit, mais il y a un mur. Alors, les Israéliens ont construit un mur, qui d'ailleurs, factuellement, a fait baisser les attentats de 98%, ce qui n'est jamais négligeable. Mais en fait, un mur, c'est le prodrome d'une frontière. Qui dit frontière, dit deux États. Je pense que compte tenu de la situation locale, il y a nécessairement le besoin de construire quelque chose qui à un moment agira ensemble. Il y a déjà une entité palestinienne avec un gouvernement qui existe. Alors qu'il soit fort, qu'il soit capable d'avancer vers la paix, c'est autre chose. C'est aussi des questions de personnes.
Oui.
Mais je puis vous affirmer que l'espérance collective, c'est que la paix règne. Et puis regardez, la force des volonté de paix dans le monde.
L'existence d'un État palestinien vous choquerait ou pas, vous ?
Non, c'est d'ailleurs la position de la France, c'est la position universelle. Donc il dit qu'il faut qu'il y ait deux États. Maintenant, comment ils fonctionnent ensemble ?
Oui.
Ça me paraît très important. Mais regardez, des pays comme le Maroc ont signé des accords de paix avec Israël, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis. Mm-hmm. Beaucoup de pays ont signé ce qu'on appelait les accords d'Abraham. Et c'est joli comme nom. Je trouve que c'est une vraie trouvaille sémantique. C'est les accords du Père commun que nous donnons tous les croyants. Nous donnons Abraham comme père. Donc les accords d'Abraham, c'est en fait revenir avant l'état de guerre à un état de fratrie qui a pu être parfois divisé par l'histoire, mais qui saura se retrouver.
J'ai encore quelques questions qui ne sont pas des questions d'actualité, mais qui sont un peu plus liées à l'actualité.
Moi, dans ma vie, chaque fois qu'il y a un hymne étranger, quel qu'il soit, il faut qu'il y ait la Marseillaise. Donc j'espère qu'en régie, ils ont trouvé la Marseillaise à un moment ou à un autre.
On va vous mettre la Marseillaise le temps de la sortir. On va vous la mettre. Ouais. Justement, tiens, on est dans une campagne présidentielle. Il y a le dîner annuel du CRIF, jeudi prochain. Et le CRIF a dit, ça se fera sans Zemmour, sans Le Pen, sans Mélenchon. Et moi, j'aurais parlé au rabbin de France, le grand rabbin, qui répète en permanence à ses collaborateurs, tout le temps, partout, parlez-vous. Il paraît que chez vous, c'est presque un Gilles de la Tourette. Est-ce que c'est une bonne idée de ne pas mettre tout le monde autour de la table ?
Sauf quand vous avez des gens qui refusent que la table soit celle du partage. Quand vous commencez à dire « je veux pas un tel », faites l'essai. Moi, je vous dis, chez moi, c'est pas compliqué, je peux inviter tout le monde. Mais si quelqu'un me dit « je viens à condition qu'il n'y ait pas tel », croyez-moi, c'est la personne qui me dit « je veux pas à condition qu'il n'y ait pas telle personne qui n'a aucune chance de venir ». Parce que personne ne met de condition chez moi. Or, quelqu'un qui dit « un tel, on n'en veut pas, ceux-là, on les veut pas, ceux-là, on les renvoie, ceux-là, ils ont rien à faire ici, ceux-là, ils sont pas vraiment français, ceux-là... » Enfin, d'où on sort ? La seule fois où on a retiré la nationalité française, c'était à nous, et par exemple à mes ancêtres en Algérie. Quand Vichy a imposé de dénaturaliser en fait tous les Juifs, et ça s'est fait en métropole, mais ça s'est fait en Algérie, puisque le gouvernement de Vichy a abrogé le décret Crémieux, qui faisait des Juifs d'Algérie des Français, 1870, 25 octobre 1870.
C'est le docteur en histoire qui parle.
Oui, c'est pas dur comme date. Mais ensuite, en 41, on a abrogé le décret Crémieux. Et donc, ces gens se sont retrouvés indigènes. Et quand il y a le débarquement à Alger le 8 novembre 42, tout le monde se dit, c'est bon, on va retrouver notre place dans la société française. Pas du tout. Giraud, qui prend le pouvoir à Alger à ce moment-là, réabroge le décret Crémieux en mars 43. Il faut attendre que De Gaulle emporte son bras de fer contre Giraud pour en octobre 43 abroger l'abrogation, et encore ça s'est fait vraiment catimini, et que les Juifs d'Algérie puissent redevenir français. Pourquoi ils voulaient devenir français ? Vous croyez que c'était pour tuer les allocations familiales ? Comme certains ont dit, ou pour faire, je ne sais plus quoi, une expression tordue pour dire faire du fric ? Pas du tout. C'était pour pouvoir s'engager pour aller défendre la France, pour aller se faire blesser dans les combats de l'île d'Elbe, pour aller remonter avec la division de Juin, qui n'était pas forcément le plus philosémite à l'époque, le maréchal Juin, pour aller remonter le long de Monte Cassino et participer au combat de libération de la France. Voilà pourquoi il voulait devenir français. Donc en fait, quand vous excluez quelqu'un, c'est toujours une négation de ce qu'est la France. Donc il n'y a aucune raison, je le dis en approuvant la décision de mes amis du CRIF, en particulier Francis Khalifa, il n'y a aucune raison, et d'ailleurs on en a parlé avec le président Licorcher, le président du Consistoire et toutes les autorités de la communauté juive, il n'y a aucune raison d'inviter les extrêmes qui ne prônent pas une idée de la République dans laquelle le judaïsme est serein.
Puisque vous l'avez réclamé, la voici.
Ah, voilà. Ça,
et là vous vous levez dans le studio.
Ah oui,
ouais.
Pourquoi pas. Je me lève,
vous ne
la mettez pas. Si vous l'enlevez, je mets un soir.
Non, on va la laisser parce que vous allez rester debout le temps de sortir l'objet que vous avez choisi pour hors piste. Qu'est-ce que vous voulez
surprendre. C'est un bonbon.
Un bonbon à la menthe, on dirait. Un Vix. Pourquoi un Vix?
J'ai toujours des bonbons sur moi.
Ouais.
Je ne peux pas enlever l'hymne, il faut que l'hymne.
On va le baisser. On va baisser
en
fait pour que
studio, je le grand rameau puisse. Fais pas la Marie.
Allez-y, asseyez-vous. Et on va couper la Marseillaise.
Voilà.
Donc un bonbon.
Merci beaucoup.
Oui, un bonbon parce que d'abord, je pense qu'il faut un peu de douceur dans ce monde. Et que les bonbons ont toujours été pour moi une façon de partager un peu de sucre, un peu de douceur, un peu de retour à l'enfance. Enfin, je suis un grand consommateur, par exemple, de fraises Tagada et surtout de réglisse, les rouleaux.
Ouais,
les...
qu'on tire.
Ouais, exactement. Ouais.
Puis qu'on finit par mordre parce qu'on n'a pas la patience de les tirer.
Ça dépend. Moi, j'aime bien les défaire quand même. Il y a quand même des... je suis un orthodoxe dans la façon de prendre le zigoto. Et donc, voilà. En revanche, je trouve que on a une société trop violente qui oublie la nécessité de douceur. Et les bonbons, en plus celui-là, enfin je veux pas, celui-là est sans sucre. Je dis pas ça pour rassurer mon épouse. Je dis parce que voilà, sans sucre et c'est bon pour la gorge.
Bon.
Et j'en ai toujours, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé, je vous assure, de voir des gens chanceler et leur amener un peu de sucre. Des manteaux, ce genre de trucs, j'en ai toujours sur moi. Je vous assure que j'ai deux ou trois fois donné des bonbons à des gens qui tournent un peu de l'œil, parce que les gens ne pensent pas qu'on a besoin aussi de sucre, de force, d'énergie. Et la douceur est une énergie incroyable dans le monde.
Et ben voilà un hors-piste qui se termine au rayon confiserie. Merci beaucoup à M. Corsia, Réinventer les aurores, prix de littérature politique Edgar Faure qui est édité en version poche et plurielle. Non, on va couper le générique. Vous vouliez chanter quoi, la Marie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est, ça vous disiez, Cécile?
Parce que... Non, c'est...
Notre réalisatrice s'appelle Marie Mérier. Voilà.
Oui,
depuis que vous êtes entrée dans le studio, vous la charriez sur son prénom.
Non, parce qu'elle m'a dit, oui, je sais, la chanson très connue avec... Ou Marie, si tu savais.
Ouais,
non, elle a préféré celle de Francis Cabrel. Petite Marie.
Je parle de toi.
Toi, parce qu'avec 10 000 ans de ça.
Ouais.
Mais moi, je préférais celle qui est magnifique, qui est une chanson militaire de la Légion étrangère, et qui s'appelle T'en fais pas la Marie, t'es jolie. Voilà, t'en fais pas la Marie. Tu as la guerre. Là, je vous l'ai mise, hein, en vrai. C'est beau, ça. C'est là qu'arrive le refrain, vous allez voir. Écoutez bien. T'en fais pas la Marie, t'es jolie. Hein. T'en fais pas la Marie, je reviendrai. Oui.
Haïm Corsia, surprenant, le grand rabbin de France qui était avec nous dans Hors Piste. Merci donc à Marie Mérier à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tessier à la mémoire vive et Jérémy Kaufmann aux manettes. Prochain Hors Piste dans une semaine, toujours le dimanche, toujours à 17h, toujours sur France Inter avec Dominique Besnéard. Et dans Hors Piste, le dernier mot, il est toujours pour l'invité. C'est donc à vous, Haïm Corsia.
Je voulais très sincèrement vous remercier de ce temps long qui change de l'urgence des réponses en quelques mots. Et qui offre de pouvoir partager quelque chose de plus profond. Merci.
Merci à vous.